BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, il est 9h passé de 31 minutes, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est parti pour une heure de débat, de controverses ensemble sur les sujets de l'actualité économique. L'un des sujets, c'est le SMIC qui va être augmenté pour la seconde fois cette année et qui va tutoyer les 1900 euros bruts par mois. Et comme dirait Frédéric Bastiat, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est l'augmentation rapide des bas salaires, tant mieux pour le pouvoir d'achat. Premiers déciles, plus 22% de plus pour le SMIC en 6 ans. C'est quand même deux fois plus que le salaire médian. Il n'y a ce que l'on voit pas. C'est aussi le tassement de la distribution des salaires juste au-dessus. L'explosion du coût des allègements de charges aussi, qui ont pris plus de 30 milliards en 5 ans. Et puis une colère générale des entreprises comme des classes moyennes qui se sentent souvent dévalorisées, déclassées. Alors un SMIC à bientôt 2000 euros. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie? Ce sera le premier débat des experts ce matin. On viendra ensuite sur la visite de Donald Trump en Chine qui vient de se clôturer sans annonce majeure finalement. Alors, qui des deux empires a gagné la rencontre, la Chine ou les États-Unis? On viendra aussi sur le discours prononcé hier par Mario Draghi. C'était à Aix-la-Chapelle à l'occasion de la remise du prix du célèbre prix Charlemagne, prestigieux prix Charlemagne pour la construction européenne. Avec quelques surprises, vous le verrez. Et puis enfin, c'est le jour de passation à la Fed. Jérôme Powell passe aujourd'hui la main à Kevin Warsh qui va prendre la présidence de la Réserve fédérale américaine. On tirera le bilan du premier et les enjeux pour le second. Voilà le programme du jour. Un programme chargé, passionnant, comme tous les jours. Il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau sur le plateau. Bonjour Ingrid Barra.
Bonjour.
Économiste spécialiste des finances publiques. À vos côtés, Laurent Moisson. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, investisseur, cofondateur des Forces françaises de l'industrie, les FFI. Et vous venez de publier aux éditions Les Déviations, Contes et légendes de la réindustrialisation. Et face à vous, un habitué maintenant des experts, bonjour. Olivier Redoulez. Bonjour Olivier, directeur des études de Rex et Code. On va commencer par les SMIC, salaire minimum, ensemble. Le SMIC qui va être revalorisé de 44 euros brut le 1er juin prochain. C'est la seconde revalorisation après celle automatique du 1er janvier. Le SMIC qui va atteindre près de 1900 euros brut, 1867,71 euros précisément. En 2020, c'était 1540. Ça a augmenté de 22% en 6 ans. Je suis allé voir le salaire médian. Je commence avec vous, Olivier. C'est 10% d'augmentation de salaire médian. Donc, l'une des conséquences de cette hausse, c'est quand même un tassement des salaires pour les classes moyennes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie, cette indexation du salaire minimum interprofessionnel de croissance?
Le problème, c'est que vous l'avez mentionné, c'est le niveau plus que l'indexation. Pour avoir un SMIC beaucoup plus bas, et ça poserait pas de problème. Le sujet, c'est qu'en fait, on a un des niveaux de vie au SMIC qui est le plus proche du niveau de vie médian parmi les pays de l'OCDE.
Ah oui.
Et donc, parce que ce que vous avez dit, effectivement, de la hausse du SMIC qui avait été plus forte que la hausse du salaire médian, c'est encore plus fort quand on prend le revenu disponible, parce qu'entre-temps, on a aussi revalorisé la prime d'activité. Donc, qui s'éteint à peu près au salaire médian, alors qu'elle est
presque 2000 euros aujourd'hui. Si on maximise l'ensemble, si on prend le plus haut niveau de la prime d'activité, on est en net à près de 2000 euros, hein, 1900 euros, faut pas exagérer. Mais autour de 1900
c'est
euros.
C'est là où elle s'éteint, je pense. C'est le point où elle s'éteint. Mais de fait, en fait, avec la prime d'activité au SMIC, aujourd'hui, on doit être à 1700 euros. Mais du coup, ça fait, effectivement, ça fait beaucoup. Parce que, au fond, quand quelqu'un passe, on va dire, du niveau du SMIC s'il rentre sur le marché du travail,
oui,
au niveau du salaire médian qui doit être autour de 1,5 SMIC, ben, il voit son niveau de vie progresser beaucoup moins vite que les efforts qu'il doit générer pour gravir cette échelle. Et ça, ça pose un vrai problème. En fait, la réalité, c'est que le SMIC, c'est de la redistribution entre travailleurs. On le voit quand, pour les chefs d'entreprise, ben, quand il y a une hausse du SMIC, ça veut dire que ils vont concentrer l'hausse salariale plutôt pour les gens au SMIC, et il va y en avoir un peu moins pour les autres. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. On a un double mécanisme d'indexation en plus. Alors là, c'est l'inflation, mais quand il n'y a pas trop d'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui fait qu'en fait, cette détente des échelles salariales est en fait assez lente à se mettre en place. Alors certes, on a tous en tête le record de gens concernés, de personnes concernées par l'hausse du SMIC en 2022, qui était autour, 2022-2023, autour de 17%. Là, on a diminué, mais quand même, ça reste élevé et ça va être de nouveau élevé. Donc, on a ce tassement des échelles, c'est un vrai sujet, en fait, pour les gains de productivité, pour la valorisation du travail, qu'on parle de valorisation du travail qui ne fait pas,
mais aussi la spécialisation de l'économie, hein.
Pour l'équilibre du marché du travail, la réallocation des ressources et des compétences de l'économie.
Comment on sort de ça, Ingrid Barra? C'est un véritable sujet, non, mais c'est, je veux dire, au-delà de la question économique, c'est un véritable sujet politique qui pèse quand même sur quasiment, je veux dire, il y a la moitié de la population qui est sous salaire médian, donc qui est autour de ce SMIC et demi, quoi.
Alors, peut-être deux observations sur l'indexation du SMIC. La première, c'est que, en fait, on fait une indexation du SMIC parce qu'on veut, en gros, que le niveau du SMIC qu'on a à peu près décidé...
On veut maintenir le niveau de vie des bas salaires.
Alors, pas exactement. C'est là où, justement, je voulais apporter une nuance. Ah. C'est, on veut maintenir en fait la part par rapport à l'économie à partir de laquelle on considère que franchement une entreprise doit pouvoir employer un travailleur et qu'il puisse être productif et que donc voilà, c'est un peu le niveau seuil. Donc c'est très élevé en France, mais la raison pour laquelle on l'indexe, c'est parce qu'on se dit que si l'économie progresse avec une inflation qui peut être à 1, qui peut être à 2, une inflation qui est celle voilà que la banque centrale un peu gère, eh bien il faut que ce niveau qu'on a fixé il y a quelques années, en fait, ne change pas en termes réels, en termes de productivité et donc en termes de pouvoir d'achat. Mais il faut bien mettre la productivité avant le pouvoir d'achat. Et c'est un peu ça le piège ici, c'est qu'on a une inflation qui est complètement importée, donc qui vient effectivement du pétrole. Et en réalité, ça n'a pas, hélas, changé la productivité de l'économie française. Et donc, on a effectivement ce phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Hein,
ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une décorrélation entre l'augmentation automatique du SMIC et la hausse de la productivité travailleurs.
C'est exactement ça.
C'est une hausse artificielle, finalement.
C'est exactement ça. Une indexation
qui était pérenne, en réalité, pour l'économie.
Bah, même, on en voit progressivement les résultats sur l'économie, hein, qui a du mal, avec un taux de chômage qui a beaucoup de mal.
Je voudrais rebondir.
Oui, Olivier.
Voilà, je pense, le SMIC et la façon dont il était conçu dans les années 70 ou à ce moment-là, en fait, on était dans une trajectoire, une sorte de vision nationale, en fait, une trajectoire graduelle de croissance un peu infinie et où, dans laquelle, en fait, le sujet, c'était de soutenir la consommation et de faire adhérer ou participer le plus en plus de monde à cette trajectoire. En fait, le monde a changé depuis.
Le monde a changé, oui.
Le SMIC, en fait, n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là. Et donc, de fait, on est arrivé à un modèle dans lequel on distribue du pouvoir d'achat avant qu'il soit vraiment créé. Ygritte parlait du fait que, oui, c'est une hausse de prix importé, et sans doute même que ça risque de dégrader la productivité française. En fait, on va sans doute produire au moins cette année, c'est ce sujet du risque de récession, ou au moins de ralentissement de la croissance du PIB avec le choc.
Avec les envoyés d'Orient, bien sûr.
En fait, on aura moins à partager, mais quand même, on va donner davantage.
Donc, en fait, le sujet du SMIC, c'est le sujet de tout notre modèle social, Laurent Moisson. C'est qu'on a un modèle social hérité de l'après-guerre, des Trente Glorieuses, où il y avait beaucoup de croissance, beaucoup de gains de productivité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et qu'on a du mal à le financer.
Ben, on ne change pas une équipe qui perd, hein. Donc, on continue dans, finalement, j'allais dire, une approche économique qui est assez stable depuis... Alors, moi, je ne remonte pas à l'après-guerre, mais on va dire... à partir des années 80, où on a une intervention du politique pour faire le bien des salariés en passant au-dessus de la réalité des entreprises. Donc, après, les ajustements se font. Hein. Et les ajustements, c'est quoi? C'est le chômage de masse. Hein, puisque.
Et on a vu que le chômage était passé au-delà des 8% au premier trimestre.
Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Hein. Moi, dans mon club, qui est un club d'entrepreneurs, j'ai un certain nombre d'entrepreneurs qui ont des usines dans différents pays. L'arbitrage, il est immédiat. C'est-à-dire que quand vous vendez à l'international, quand vous vendez à des grands groupes qui ont des acheteurs qui vous demandent un certain prix, vos marges, quand vous les perdez parce que vous avez une hausse salariale qui est artificielle, elle est décrétée. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise C'est pas la Suisse, là. La Suisse, si vous voulez, on a des salaires. Moi, je suis pour, hein, un SMIC à la Suisse. Très bien, un salaire moyen suisse, c'est formidable. Mais ils ont créé les conditions via des entreprises extrêmement bien positionnées et en faisant confiance aux entrepreneurs et au marché suisse et aux Suisses entre eux, eh ben, ils ont réussi à créer un modèle vertueux qui fait que la confiance donne de l'investissement, donne de la productivité, donne de la performance, donne des grosses marges qui sont redistribuées, notamment, pas uniquement, mais notamment sur la forme de salaire. Nous, on fait pas ça, on micromanage les boîtes, ça crée, on leur donne beaucoup de normes, ça crée un certain nombre de problèmes de marge, on a du mal à augmenter les salaires, alors vous avez l'État qui dit, bah attendez, moi je vais quand même le faire. Mais le paradoxe, je parle devant deux économistes qui me corrigeront si je me plante, mais plus vous montez le SMIC, plus vous augmentez le taux de pauvreté.
Alors, on augmente aussi les allègements de charges. C'est un des sujets, des grands sujets politiques du moment, de tension entre les organisations patronales et Bercy. Il n'y a pas que le salaire minimum qui est indexé sur l'inflation. Il y a aussi les allègements de charges qui sont indexés sur la hausse du SMIC. Et à chaque fois que le SMIC augmente, Olivier Redoulet, c'est l'ensemble des allègements de charges qui augmentent aussi. Et c'est ainsi que nous sommes passés de 50 à 83 milliards d'euros d'allègements de charges en 5 ans seulement. Alors d'un côté, vous avez les chefs d'entreprise qui vous disent « bah oui, mais si vous rabotez ces allègements de charges, c'est une hausse du coût du travail ». Et de l'autre, Bercy qui dit « on ne peut pas continuer comme ça ad vitam ». Quel est l'avis de Rexecode dans ce
Alors déjà, je voudrais corriger en fait ou préciser nuancer un chiffre. Cette hausse de 30 milliards, en fait, c'est une hausse nominale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le taux d'allègement de charge, c'est-à-dire, les allègements, c'est quoi? C'est une baisse de cotisation. Ce qu'il faut voir,
mais c'est que. On peut réexpliquer autour du SMIC aujourd'hui, on paye quasiment plus de charges. Les entreprises ne payent quasiment plus de charges et ensuite, ça monte progressivement jusqu'à 3
milliards. Cette baisse de cotisation, en fait, le taux de baisse de cotisation ramené sur la masse salariale, il est à peu près au même niveau aujourd'hui qu'en 2019. En fait, il avait un petit peu augmenté en 2023 parce que, en fait, l'inflation était allée assez vite et donc le temps que les échelles salariales se redéploient. Mais de fait, en fait,
ce ça n'a pas bougé depuis 2019. Non, vous le dites, c'est la masse salariale qui a augmenté.
Non seulement les paramètres n'ont pas bougé à la hausse, mais surtout ils ont bougé à la baisse parce qu'on a diminué les plafonds d'allègement de charges en 2024 et 2025. Et ensuite, on a un petit peu raboté l'an dernier. Donc, de fait, en fait, les allègements de charges en absolu, leur hausse, elles traduisent surtout celle de hausse salariale. Vous prenez 10% d'une hausse salariale qui augmente, parce que c'est à peu près 11% le taux moyen d'allègement de charges. Vous prenez 11% du masse salariale qui augmente, vous avez un montant qui augmente. Mais ça reflète surtout la hausse de la masse salariale. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est comment ont été conçus ces allègements de charges. En fait, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé, qu'en fait que les politiques aient trouvé, entre d'un côté un taux normal de cotisation finançant notre dépense sociale très élevé, c'est à peu près 45%, après ça diminue. Ça
bouge. Mais parmi les plus hauts de l'OCDE. Hein.
Mais c'est à peu près ça. Et ça, il le faut parce que on a un modèle social qu'on a promis, donc que les politiques ont promis, donc du coup,
bien financer.
Et par ailleurs, on veut un SMIC aussi élevé. Et du coup, on s'est retrouvé au fil des années à avoir un taux chargé au SMIC qui était incompatible avec l'emploi. Donc ensuite, on a allégé. C'est comme ça qu'en fait, les allègements de charges ont commencé à partir de 1993 et puis ils ont été, au fur et à mesure, augmentés avec les années. Alors là, effectivement, avec la hausse du SMIC, comme la formule d'allègement de charges est indexée sur le SMIC, il va augmenter pour des gens qui ne vont pas avoir tout de suite une hausse de salaire. Mais la réalité, c'est que dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas des entreprises où il n'y a que des gens au SMIC et des gens entreprises où il n'y a que des gens qui sont
jusqu'à 3 SMIC. Dit Bercy, c'est qu'à 3 SMIC, ils vont bénéficier d'allègements.
Les allègements de charges
sans
sur les gens qui sont assez élevés, la hausse des allègements va permettre de financer la hausse du SMIC que les entreprises vont devoir financer. Et ça, en fait, c'est un vrai sujet. Si on remonte un petit peu dans le temps, en 2022-2023, où tout le monde crie, il y avait à peu près ce même discours, voilà, les
allègements de charges. Mais oui, c'est à chaque fois le problème, dès qu'il y a beaucoup d'inflation, etc. Voilà. Mais qu'il ne faut pas désindexer les allègements de charges.
Mais ce qu'il faut se souvenir, à cette époque-là, on avait été tous surpris positivement par la bonne tenue de l'emploi. Ce n'était pas que de l'apprentissage. Et la réalité, c'est qu'en fait, les entreprises avaient pu à la fois augmenter les salaires au SMIC et maintenir l'emploi parce qu'elles avaient bénéficié de ristournes d'allègements de charges. Alors, c'est pas, y a des entreprises qui en ont peut-être bénéficié alors qu'elles n'étaient pas concernées. Mais de fait, il faut faire, je pense, attention à ne pas vouloir raboter les allègements de charges parce qu'en fait, ben certes, on va faire peut-être des économies budgétaires, mais ça va se payer un emploi demain.
Ingrid, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui et non, mais c'est...
La spécialiste des finances publiques, ah ben, quand même plus de 80 milliards d'allègements de charges et un déficit absolument majeur.
Alors,
il y a deux logiques qui s'opposent, là.
Il y a tout à fait deux logiques qui s'opposent. J'aurais vu en introduction souligner que c'est un peu le paradoxe d'avoir classé dans le débat public pendant un certain temps et notamment dans le rapport du sénateur Fabien Gay, les allègements de charges comme des dépenses, des aides aux entreprises. Donc là, on y est et donc...
assez discutable.
Voilà, en sens vraiment. Et c'est vrai que de ces derniers temps, avec cette histoire du SMIC, on voit bien que là, le discours est complètement inverse. Puisqu'il s'agit de dire, bah oui, évidemment, il faut que les gens qui travaillent à un niveau qui n'est pas mirobolant, qui est au-dessus du SMIC, enfin bon, bref. Et donc, il y a tout ce débat autour du profil de charge, hein, de prélèvement obligatoire sur l'échelle salariale. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus sur est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est une recette ? À la fin, effectivement, quand on regarde l'économie au global et en fait les montants que ça représente, évidemment, on est sur quelque chose qui participe de l'équilibre des prélèvements obligatoires. Et donc, à nouveau, l'indexer, c'est donc je reviens à un peu le même paradoxe, si on veut, c'est que dans un modèle pur et parfait où effectivement vous avez un peu de croissance, vous avez un peu d'inflation, tout ça est très très stable, effectivement l'indexation un peu automatique sans y réfléchir est assez naturelle.
Oui.
En revanche, quand vous avez des problèmes de finances publiques, vous avez des problèmes économiques, vous avez des problèmes de modèle social.
Oui, c'est ça. Ça fonctionne mal quand il y a des à-coups, quand il y a des déficits. Sauf que le monde est ainsi fait. Je veux dire, on ne vit pas sur une linéarité parfaite de la croissance.
C'est un des grands enjeux, et je pense que c'est vraiment important que ce soit pris comme tel. C'est-à-dire que c'est un enjeu qui est au centre des prélèvements obligatoires, de ce que les entreprises peuvent supporter, avec effectivement des effets qui peuvent être très pervers de redistribution interne en fonction de si on gêne ou si on gêne pas, parce qu'effectivement l'économie n'est pas un bloc unique avec une entreprise, ils ont tous la même échelle. Donc voilà, il y a des effets qui peuvent être assez pervers, et donc de regarder en fait le grand éléphant dans la pièce de cette histoire, qui est le reste des dépenses publiques. En fait, qui est effectivement quelle dépense, quelle trajectoire budgétaire, quel prélèvement obligatoire on assume de bien vouloir faire porter.
On voit qu'on arrive dans un système d'une complexité quand même.
Pour aller dans le
nocif pour l'économie, quoi.
Pour aller dans le sens Ygritte, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les allègements de charges sont des moindres recettes, mais ces recettes, elles financent, par exemple, des pensions de retraite.
Oui.
Donc, si par exemple, on était capable de désindexer les pensions de retraite, on n'aurait pas. La question ne se poserait pas forcément.
Oui, le non, sujet, mais c'est sûr qu'il y a le volet retraite, mais on peut traiter aussi le volet dépenses.
Augmenter.
Mais bien sûr.
Vers les élections.
Laurent.
Bah oui, là, on paye un peu le manque de courage en matière de réforme de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a un modèle social qu'on ne peut pas se payer.
Bon. Et oui.
Donc, on a créé. Un modèle extrêmement complexe, très sophistiqué, et plus un modèle est sophistiqué, plus il est fragile, surtout dans un monde incertain comme le nôtre. Donc dès que vous prenez un choc, vous savez pas d'où ça va fuir, mais ça va fuir forcément de quelque part. Donc après, c'est très compliqué. En plus, comme tout est imbriqué et que en France tout est politique, hein, on a réussi à politiser l'économie au maximum. Donc tout est une question de débat et on va avoir du mal à se mettre d'accord, alors que j'allais dire le niveau de l'eau monte et qu'on est bientôt complètement asphyxié. Donc c'est ça le sujet, si vous voulez. Si vous avez un dispositif avec un État qui, pour des raisons politiques, va dire moi je prélève énormément d'argent sur les entreprises, que ce soit fiscalité, que ce soit sur le travail, peu importe. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même dans la poche de ceux qui travaillent et des employeurs. Hein, c'est bien là que ça, qu'on le prend. Et ensuite, on va faire toute une usine à gaz pour le redistribuer, éventuellement même à la personne à qui on l'a pris, en disant « je t'en prends trop, mais je t'en... » Donc à la fin, évidemment, c'est exploité politiquement par des gens qui disent « vous voyez, en fait, c'est les entreprises qui nous coûtent beaucoup d'argent. Oui. » Hein. C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai appris avec ce débat à l'Assemblée nationale que quand vous piquez 100 et quand vous rendissez, en fait, on vous fait un cadeau. Moi, je pensais que non, mais si, visiblement, ça a été compris et c'est exploité aujourd'hui comme ça. Donc après, ça rend le débat extrêmement complexe pour un gouvernement qui veut se dire « bon, bah, j'ai bien compris que plus je tapais sur les entreprises, plus je prenais sur les salariés, bah, plus à la fin j'avais des problèmes sur mon économie globale ». Mais en face, ils ont finalement donner le bâton pour se faire battre à une opposition qui n'a plus qu'à dire « Non mais attendez, vous voyez bien, c'est le gouvernement des riches et des entreprises. » Voilà. Donc, il faut peut-être simplifier ça. Hein, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui disent « Écoutez, nous, il faut absolument maintenir toutes ces aides en ce moment parce qu'on en a besoin. Mais dans un monde idéal, on serait tout à fait d'accord pour avoir beaucoup moins d'aides, voire pas du tout, mais un niveau de prélèvement. »
C'est le grand shift. On baisse les impôts et on baisse les aides.
Vous faites un truc simple sur les entreprises. Tout le monde s'y retrouve. C'est lisible. Ça
fait 15 ans qu'on en parle, mais on voit qu'on a beaucoup de mal à le mettre en place. Allez, le mot de la fin sur ce sujet.
Oui, d'ailleurs, il y avait
un autre rapport
qui faisait un peu le parallèle avec les aides aux entreprises. Cette grande effacement, cette grande restitution. Et non, juste pour dire que, en fait, la manière de présenter le débat, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous, simplement parce que on dit souvent les aides aux entreprises. Alors, les entreprises ont besoin, etc. En fait, les entreprises, c'est une fiction juridique et comptable. Derrière, il n'y a que les salariés, les clients et les actionnaires. Les actionnaires, c'est une petite partie, ils sont très mobiles, c'est une petite partie critique, mais une petite partie. Et donc, en fait, vous n'avez que les salariés et les clients. Et là, on voit très bien que derrière tout ce débat autour des aides d'entreprise, en fait, c'est le débat de la production et le débat du pouvoir d'achat. Et à nouveau, avec... entre les deux, voilà ce qu'il
avec l'État
contraint.
Qui prend beaucoup plus que les actionnaires, hein, dans la répartition de la valeur ajoutée aussi. Donc ça pose évidemment la question de la puissance publique. Allez, il faut qu'on avance. Il est 9h52. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts. On continue de débattre, d'analyser l'actualité économique. Évidemment, aujourd'hui, c'est aussi la rencontre Donald Trump, Xi Jinping qui se termine. La tournée de 48 heures du président américain en Chine, à Pékin. Évidemment, rencontre au sommet. Donald Trump qui vient de quitter la Chine sans annonce particulière au final, en tout cas sur le plan économique. Le président américain avait pourtant affirmé cette nuit avoir décroché des accords commerciaux, je cite, fantastiques, et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz. Bon, on ressort, Olivier, un peu déçu de cette rencontre, parce que zéro annonce au final.
Non, déçu, je ne sais pas si vraiment on s'est habitué et les chefs d'État dans les différents sommets cherchent à faire des communiqués toujours un peu plus mirobolants, mais qui souvent dans le passé étaient parfois un petit peu artificiellement grossis, où en fait on prenait tout un tas de choses qui étaient déjà en cours, on en faisait un package, on disait regardez comment on travaille ensemble. Là on est plutôt peut-être sur du qualitatif, mais ça traduit quelque chose de positif, c'est que les deux grandes puissances en fait se parlent. C'est-à-dire, on est loin quand même du Liberation Day, où en fait, on s'est invectivé des deux côtés de l'Atlantique. Là, on voit que il y a les grands banquiers, les grands financeurs américains d'un côté et les grands industriels du numérique américains de l'autre qui viennent en Chine. On voit bien les intérêts qu'il y a des deux côtés. On sait que les deux économies sont très interdépendantes, à la fois sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan commercial bien sûr, mais aussi sur le plan financier. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Au fond, on sort de cette période du début du mandat de Trump qui était, au fond, c'était la fête du protectionnisme, et là en fait on revient sur
quelque chose. Et puis un carpet bombing sur tous les partenaires commerciaux.
Et là c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on se dit pour à l'échelle mondiale c'est mieux que ces deux économies traversables, à condition que l'Europe ne soit pas dans leur assiette et qu'elle ne se partage pas l'Europe en pâture.
Est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant de cette rencontre, Laurent Moisson?
Alors, toujours très difficile d'analyser une rencontre qui a duré quelques jours, enfin deux jours.
Hein, oui, 48
heures. C'est ça, 48 heures, avec d'un côté un président chinois qui dit rien, ou qui dit trois mots, il dit Taïwan, Taïwan et Taïwan,
oui.
C'est à peu près tout.
Enfin, il a été très clair là-dessus. Hein.
Il était clair.
Sur Taïwan, il pourrait aller au conflit. Hein.
C'est pas un grand loquace, et de l'autre côté, on a un président Trump qui dit tout et son contraire. Donc, si vous voulez, moi je pense que tirer quoi que ce soit des déclarations qui ont été faites pendant ces 48 heures, c'est lire l'avenir dans un mar de café. Donc dans le mar de café. Donc je pense que c'est un. On ne devait rien attendre des déclarations. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les deux puissances se sont parlé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Ce qui s'est passé avant, c'est quoi? C'est Donald Trump qui comme son style l'indique en permanence, hein, qui veut faire des deals, il avait préparé cette rencontre. Il avait préparé cette rencontre comment ? En balançant un certain nombre de bombes à des alliés de la Chine. Alors, il a commencé avec le Venezuela, donc là il a réussi, coup de maître, bravo. Il pensait faire la même sur l'Iran, ça s'est pas passé comme il voulait. Et là, en fait, il est arrivé, alors qu'il pensait arriver en position de force, il est arrivé en position de faiblesse. Parce que, un, le détroit d'Hormuz est bloqué, donc oui, ça crée un gros problème pour l'économie mondiale, donc tout le monde se retourne vers lui en disant « mais qu'est-ce que t'as fait ?» Deuxièmement, les seuls bateaux qui passent, hein, et ça a été dit ce matin, c'est des bateaux chinois, donc oui, c'est-à-dire que la Chine a le temps. D'abord, il n'y a pas d'élection de mid-terms pour Xi, mais en plus, elle a le temps économiquement. Bon, ça va commencer à lui poser un problème le jour où ses clients n'auront plus d'argent. Donc, il va falloir quand même que ce problème qui est systémique se règle. Mais vous avez là-dessus un autre élément, c'est qu'on a vu que les stocks d'armes américaines, enfin américains, pardon,
oui,
parce que c'est un stock,
oui,
se sont vidés à une vitesse
importante. Avaient besoin d'être reconstitués.
Exactement. Donc là, c'est-à-dire que le côté très impressionnant de la démonstration américaine avec un Trump qui était très offensif, qui prenait des décisions à l'emporte-pièce comme ça, ça a tétanisé tout le monde. Il y a eu un moment de flottement. Moi, je me rappelle des premiers jours de bombardement de l'Iran où on a dit « Oh là là, tout le monde s'écrase,
oui,
ils sont en train de gagner, quel coup de maître, etc. » On voit bien que c'est pas du tout la même chose. Hein. L'Iran n'est pas tombé.
C'est pas le même morceau que le Venezuela. Ça,
c'est pas pareil. Hein, donc c'est là, là si vous voulez, la négo, elle se fait très différemment.
Oui.
Et donc, on voit bien que ça va pas être simple pour Trump. Il a des arguments. Mais en face, ça rigole pas non plus.
Ingrid.
Effectivement, la Chine est beaucoup plus difficile à lire, elle parle beaucoup moins, mais c'est vrai que dans le style et dans ce que ça reflète de la fébrilité côté américain, c'est voilà, ils sont venus en expliquant qu'ils allaient vendre. Et c'est vrai que ça donnait l'impression
un peu étrange. Pas grand-chose. On attendait des annonces sur le soja, sur éventuellement 200 Boeing, sur des ventes de pétrole.
Mais qui n'auraient été que des annonces. En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir.
Aussi.
C'est-à-dire, en réalité, on a quand même un petit peu l'impression, surtout avec la présence de Boeing, que c'était une tournée de VRP. Et là, vous demandez, pas de réaction en face. Donc, on voit bien que l'enjeu pour le président Trump, c'est vraiment l'enjeu commercial, l'enjeu de très court terme, et donc c'est très court-termiste, et en réalité c'est, je pense, pas très stratégique de leur côté, parce qu'effectivement en face il y a évidemment pas d'engagement, enfin c'est pas un deal qu'on signe sur la table,
genre, oui,
c'est ferme pour X unités, et c'est ça qui va déterminer la prospérité et l'avenir de l'économie mondiale. Donc on a vraiment l'impression, effectivement, qu'il y a un court-termisme économique fort du côté du président Trump.
C'est un dealmaker, Donald Trump.
Ouais, qui n'est pas du tout au service de la stratégie commerciale et de croissance à plus long terme.
Oui. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci beaucoup. On se retrouve dans une minute. On va parler Europe maintenant et du discours tenu par Mario Draghi hier à Aix-la-Chapelle à l'occasion d'une remise de décoration. Il a eu des mots intéressants, notamment sur le commerce international. Et puis, ces jours de passation à la Fed aujourd'hui, Jérôme Powell qui passe la main à Kevin Warsh. On va voir le bilan du premier, les enjeux pour le second. Ne quittez pas, on vient tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Retenez bien le nouvel horaire des experts. C'est 9h30, 10h30, dorénavant, toujours aujourd'hui avec Ingrid Barra, économiste spécialiste des finances publiques, Laurent Moisson, entrepreneur et investisseur, cofondateur des Forces françaises de l'industrie, et Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode. Je voulais qu'on revienne sur le discours prononcé par Mario Draghi. C'était hier à Aix-la-Chapelle, il s'est fait remettre le prix Charlemagne, l'un des plus prestigieux prix européen pour récompenser sa vie, son œuvre pour la construction européenne. L'occasion pour lui d'appeler à un nouveau sursaut. Alors, il n'arrête pas, Mario Draghi, depuis quelques années maintenant, depuis le rapport, et puis de discours en discours. Au mois de février, c'était à Louvain, où il appelait un fédéralisme pragmatique. Bon, là, son discours était assez axé économie. Sans grande surprise. Moi, il y a une chose qui m'a interpellé, notamment, c'est ce qu'il dit des accords commerciaux internationaux. Grosso modo, Mario Draghi dit c'est facile d'aller signer le Mercosur avec l'Inde, avec l'Indonésie, Mais en réalité, ça ne va pas rapporter grand-chose au final, un demi-point seulement. L'urgence, dit l'ancien président de la BCE, c'est de s'attaquer au marché intérieur. Vous êtes d'accord avec lui, Olivier Rodoulès ?
Oui, alors, c'est étonnant, effectivement, la critique qu'il a faite sur les accords internationaux en minorant...
Il y a quand même un petit taquet à Ursula von der Leyen. Quoi.
Le gain qu'on peut en avoir, mais au fond... Il prend acte de deux choses, je pense. Il prend acte, et c'est aussi dans son discours le mentionne, ce qu'on disait tout à l'heure sur les États-Unis et la Chine, en fait, il prend acte que du fait que le monde a changé et que le rêve d'une mondialisation toujours plus profonde, toujours plus ouverte,
prospère, heureuse et pacifique,
s'inscrivait le développement européen et tous ces accords commerciaux en fait y remis en cause, et que notre principal allié des États-Unis en fait est devenu plutôt une source d'instabilité d'abord pour nous mais aussi pour le monde, que la Chine n'offre pas vraiment une alternative pour l'Europe, elle ne va pas pouvoir jouer le rôle que les États-Unis ont joué auprès de la Deuxième Guerre mondiale, et de l'autre les accords commerciaux, on voit que les coûts politiques sont de plus en plus importants. On l'a vu encore avec le Mercosur en France, on le voit de manière assez systématique. En fait,
c'est vrai en France, est-ce que c'est vrai ailleurs en Europe, Olivier Rodoulès ?
Pas forcément, mais par contre, ce qui est sûr...
On était un peu isolés, hein, à être contre.
On est un peu isolés, mais de manière générale, quand même, les gains qu'on arrive à obtenir avec ces accords, on n'arrive plus vraiment à les matérialiser et surtout à les distribuer. Et en fait, comme on le sait, un accord de libre-échange, ça fait des gagnants et des perdants. Et là, peut-être que c'est lié, alors je ne veux pas reboucler avec le début de l'émission, mais à l'étendue de notre modèle social, mais en fait, on n'a plus forcément les marges de faire ces transferts pour compenser les perdants. Et du coup, on entend, les gagnants, on les entend assez peu, les perdants, on les entend beaucoup. Non, un point qu'il a mentionné, c'est effectivement la nécessité d'approfondir le marché européen. Et ça, c'est un point qu'il a dit. Il a dit, au fond, on a créé un marché de réglementation. On a fait toutes les réglementations comme si on avait un marché, mais par contre, on n'a pas vraiment ouvert les frontières.
Et oui.
Et de fait, en fait, on a les inconvénients de marché commun, avec des réglementations qui s'accumulent, mais on n'a pas les avantages. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il fait référence, notamment à une étude qui avait été publiée par le FMI il y a un peu plus d'un an, sur les droits de douane implicites que les pays européens...
À l'intérieur, par la norme, en fait. Absolument. Une forme de protectionnisme intérieur par la norme et la réglementation.
Absolument. Quand on parlait, par exemple, on s'étonnait que Trump allait nous mettre 15% ou 25%, en fait, on est plutôt de l'ordre de 40% pour les biens, de 100% pour les services en termes de droits de douane intérieur, parce que en fait, sur un certain nombre de choses, on commerce pas, on a mis des normes, on a mis de la réglementation commune, et ça, c'est un vrai frein au développement européen.
Laurent Moisson, qu'est-ce que vous retenez du discours de Mario Draghi ?
C'est le discours un peu triste hein, d'un grand homme européen qui constate au moment de partir que l'œuvre de sa vie et puis à laquelle il a participé, hein, qui est pas la sienne, mais ça. Mais
il garde l'optimisme de la volonté quand même, Mario Draghi. Il essaie de faire de cette crise une union. Enfin voilà.
Oui, mais il a fait ça dans son rapport.
Puisque le monde bouge, profitons-en pour avancer.
Moi, alors effectivement le ton et puis c'est un grand homme, donc il sait parler, il manie bien la communication. Mais après, quand on regarde les différentes prises de parole depuis quelques années, on voit bien le constat européen numéro un, c'est quoi ? C'est qu'à force de tout réglementer, il y a une impuissance qui s'est installée. On n'arrive pas à avancer. Le monde a changé, mais on s'en est toujours pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on continue à imaginer qu'on va changer le monde en poussant nos valeurs grâce à des petites normes éthiques tatillonnes à travers le monde. Ça marche pas. En face de nous, on en parlait hors antenne, il y a un auteur qui a été cité, qui est Thucydide, hier dans la rencontre Chine-États-Unis.
Xi Jinping qui a cité le piège de Thucydide. C'est les guerres du Péloponnèse, effectivement, ouais. Quand le leader, Athènes à l'époque, se fait concurrencer
alors, c'est le contraire.
Par la puissance...
C'est le contraire, c'est Sparte qui, voyant qu'Athènes commence à monter, déclenche une guerre préventive contre Athènes. Et ça a été théorisé, et donc on voit bien que c'est toujours un mauvais calcul, parce qu'il y a beaucoup de choses imprévues qui se passent. Mais Thucydide, il dit une autre chose, c'est qu'il dit que le monde est gouverné parce qu'il a perdu, lui, l'ordre mélien. Oui. Hein, c'est-à-dire le dialogue qu'il y a eu pendant la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Milos, qui était une petite île non alignée, et qui a dit, écoutez, moi je veux pas rentrer dans la guerre, parce que c'est mon droit international. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un droit international, etc. Et Athènes lui a dit, écoutez, je m'en fiche complètement, je suis plus fort, donc je viens, et puis je vous oblige à rentrer dans la guerre, ou alors je rase tout. Bon, Quelque part, c'est exactement ce qui s'est passé depuis que le monde est monde. On a une petite parenthèse qu'on peut qualifier d'enchantée, puisque oui. Le mot est joli. On va dire entre la chute du mur de Berlin et récemment. Et on voit bien qu'il y a deux empires, les deux empires mondiaux, bah, ils sont en train de se réveiller. Ils reviennent à Thucydide très très fort. Et nous, on est encore dans un truc où le droit international, attention, c'est important et tout. Donc ça, on l'a appliqué au sein de l'Union, c'est-à-dire que tout est bien réglementé, mais on a manqué là aussi, comme on manque de courage externe par rapport à ces deux géants, on a manqué de courage interne pour faire l'Union. Il faut du courage pour faire l'Union, parce que vous avez un certain nombre de marchés et de peuples qui ne sont pas alignés, qui parfois se méfient
qui parfois ont des intérêts divergents.
Exactement. Et en fait, c'est ça qu'il dit Draghi. Il dit, on a passé trop de temps à faire ce qui est simple, c'est-à-dire envoyer quelques négociateurs faire des négociations compliquées à l'autre bout du monde. Là, il y a eu des gains, très bien, il y a eu aussi des pertes, mais en tout cas, ça n'était pas ressenti dans la chair des nations. Par contre, aller faire ce que lui veut faire, ce que veut faire Macron, ce que veulent faire un certain nombre de leaders européens, c'est-à-dire un grand marché des capitaux, par exemple. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une sorte d'harmonisation de la fiscalité. Oui. Aller harmoniser la
on
fiscalité française...
On n'a jamais réussi à mettre en place, même la franco-allemande, qu'on a essayé à un moment de mettre en
place. C'est impossible, entre la, je sais pas, moi, vous prenez la France et vous prenez l'Autriche, vous avez des conceptions de la fiscalité qui sont complètement différentes. Nous, on met toute notre morale française dans la fiscalité. On fait tout avec la fiscalité. Vous avez d'autres pays qui sont complètement, enfin, qui pensent complètement différemment. Donc, faire cette union, c'est très compliqué. Ça demande des renoncements politiques difficiles à faire pour les États. Et lui, il dit, on aurait dû passer plus de temps à faire ça et moins de temps à aller faire le truc à l'international.
Ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'Europe est la seule puissance à pouvoir s'imposer face à la tenaille de la Chine et des États-Unis autour du globe. C'est un modèle à défendre, Ingrid Barra.
Sur la fiscalité, je suis d'accord avec l'analyse, mais sauf que le mot ne figure pas dans le discours. C'est-à-dire que c'est assez frappant que effectivement on passe beaucoup de temps à commenter l'état du monde dont effectivement on est spectateur, c'est un peu dommage, mais enfin c'est le commentaire est très présent et moi ce qui m'a frappé c'est que par rapport effectivement au précédent discours et au rapport qui était beaucoup plus incisif sur la partie déréglementation, comment est-ce qu'on redevient productif, comment est-ce qu'on redevient pertinent, cet aspect-là ne figurait quasiment pas dans le discours.
Oui.
En revanche, il y avait un accent beaucoup plus fort sur la partie aide d'État. Et donc, évidemment, sachant ce qu'on sait sur l'état des finances publiques européennes et en particulier françaises, la première, et même du budget européen qui a été très présent pendant la relance du Covid, qui s'est endetté pour la première fois et est très présent depuis, et où la version qui est sur la table, c'est un doublement.
Et, oui,
hein.
Et qui est discuté en ce moment.
On se demande bien comment est-ce que cette solution serait très très novatrice et très très pertinente.
Il y a une nouveauté hein, quand même dans ce qu'il dit. Le rapport Draghi, c'est 800 milliards de mémoire. Il disait qu'il y avait un besoin de 800 milliards d'investissements supplémentaires chaque année pour notre transition énergétique, défense, etc. On est passé en deux ans de 800 à 1200 milliards. C'est le nouveau quantum. Ah oui, l'inflation à tous les niveaux, Olivier Rodriguez.
Non, je pense qu'au-delà de cette annonce-là chiffrée, en fait, qui dit voilà il faut aller plus loin, l'urgence est encore plus importante et c'est un petit peu pour mettre de la dynamique et de la tonalité dans son discours et réveiller les chefs d'État qui le regardaient. Je pense qu'il a fait une autre annonce qui est celle du fédéralisme pragmatique.
Oui, mais en fait, il en avait déjà parlé à Louvain en début d'année.
Cette vision là c'est peut-être un demi-aveu d'échec. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avancer ensemble. Et donc, en fait, on va chacun laisser avancer, on va laisser des petits groupes de pays se constituer. Et il dit, voilà, on ne veut pas... Il ne faut pas rester dans le libéralisme pur, il ne faut pas faire du protectionnisme. Attention, les aides d'État, ça peut marcher ou autre. En fait, on est quand même beaucoup dans de l'eau tiède. Et au fond, sur certains sujets, il reste quand même assez en retrait sur le sujet. Ingrid parlait de fiscalité, par exemple, sur le sujet de l'épargne. C'est un petit peu le retour, l'épargne qui va aux États-Unis, c'est bien, mais... L'Union des marchés de capitaux, au fond, elle existe de fait avec les États-Unis aujourd'hui. Pourquoi elle se fait pas en Europe? C'est parce qu'il y a un vrai sujet de rentabilité des capitaux, en fait, investis. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de capital investi, de rentabilité sur capital investi, vous allez la chercher ailleurs. Et c'est vrai.
Mais l'épargne, on l'a en Europe.
Oui, mais il n'y a pas la rentabilité.
Américaine.
Ça tient à la fiscalité, mais aussi à nos rapports au risque, au fait qu'on a des modèles sociaux qui sont très protecteurs, mais qui, de fait, confisquent beaucoup le rendement du risque.
Après, c'est 300 milliards, les capitaux investis, encore une fois, de mémoire. Hein. Les capitaux européens investis aux États-Unis, c'est 300 milliards sur, je ne sais plus quel est le montant de l'épargne, mais c'est en milliers de milliards.
C'est significatif. Hein. Non, je voulais juste faire... je trouve que vous avez très bien choisi les sujets, puisque quand...
Merci beaucoup, c'est très bien,
bravo. on passe de Xi... à l'Europe, oui. Pardon, mais moi, quand je lis les deux, je me dis, on assiste au partage de la Pologne, là. Hein? Donc, vous avez, l'Europe, c'est la Pologne. C'est-à-dire que...
Si on n'est pas à la table des discussions, c'est qu'on est au menu.
Et on n'était pas, exactement. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux puissances qui ont parlé de plein de choses, sans doute d'Europe. Elles savent tout à fait qu'elles vont s'affronter, comme l'Allemagne nazie et l'URSS en 1939. Et il y a une grosse dinde, là, on va se dire, tiens, avant de se taper dessus, si on la mettait au menu, justement. Donc, vous avez déjà une Europe qui, pour les raisons qu'on a évoquées, notamment en matière de notre incapacité à engager des capitaux vers l'industrie ou la technologie d'avenir, on n'est pas capable de créer des géants européens capables d'affronter ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, où on est devenu une colonie déjà numérique des États-Unis. On est en train de devenir, alors la France c'est déjà un fait, mais l'Europe est encore une puissance industrielle. Mais dans quelques années, vous allez voir que si on continue comme ça, on sera devenu une colonie industrielle de la Chine. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, moi, j'ai lu son discours comme quelqu'un qui dit, bon, c'est en train d'arriver, il aurait fallu, c'est encore temps, on sort un certain nombre de projets qui sont intéressants, mais regardez la montée dans l'opinion du ras-le-bol européen, je pense que ça va être difficile à vendre aux populations, alors que c'est probablement une bonne chose, hein.
Ingrid.
À nouveau, moi j'aimerais faire un lien entre deux autres sujets. Le premier sur le SMIC et celui-là où il y a vraiment un contraste très fort. Quand on dit qu'on veut faire le marché des capitaux parce que ce serait super, l'épargne et tout ça, effectivement c'est oublier qu'il faut se replacer en France où l'épargne est excessivement réglementée et où la fiscalité de l'épargne, on a quand même voté récemment une hausse du PFU sur l'épargne.
Prélèvement forfaitaire unique. Flat tax, donc ce qui taxe le capital.
C'est ça, donc on est revenu sur la flat tax pour taxer plus une épargne qui est effectivement une épargne risquée. On a eu des débats récemment en France sur l'exit tax avec la taxe Zucman, avec l'idée que vraiment il faut que les gens qui ont un capital ou qui investissent et qui prennent des risques restent en France pour qu'on puisse les taxer. Donc on voit bien que c'est complètement contradictoire avec cette vision un peu effectivement je trouve tiède, je suis assez d'accord, de marché des capitaux où on se dit ça va être super parce qu'on va faire des grands investissements européens à des grands champions et on passe complètement sous silence la partie difficile de l'affaire, la partie politique, la partie où il va falloir faire des choix, à savoir est-ce qu'on accepte de effectivement se contraindre un petit peu plus, laisser un peu plus des réglementations plus souples et je voudrais faire le parallèle avec l'audition, c'était mardi je crois, d'Arthur Mensch, qui a vraiment été excellente
devant une salle vide,
devant une salle absolument
dramatiquement vide. Allez écouter son audition, c'est absolument passionnant.
Remarquable.
Et c'est une sonnette d'alarme qui devrait retentir dans tout l'hémicycle. Mais ce que vous nous dites là, Ingrid, c'est l'opposition classique entre le niveau national et le niveau fédéral. En même temps, encore une fois, on en vient au fédéralisme pragmatique de Mario Draghi, qui vous explique que quand on est au niveau fédéral, commerce, concurrence, politique, monétaire, ça fonctionne. Quand on est au niveau infracommunautaire, enfin, ou supranational, c'est plus compliqué.
Et entre
la défense et autres.
Et entre consommation et investissement, un autre terme n'est pas du tout dans son discours, c'est le mot de consommation. Alors il dit rapidement au détour d'une phrase, il faudrait faire ça sans dette, si c'est possible. Enfin, on aimerait bien savoir comment. Et en fait, quand on veut investir, alors bon, en passant en mettant de côté investissement public privé, peu importe. Oui. Mais en fait, ça veut dire moins consommer. En tout cas, se contraindre avec des modèles de fiscalité et des modèles budgétaires qui sont plus sobres.
Non. C'est finalement passer d'un modèle européen et notamment français qui est complètement axé sur le citoyen consommateur à revenir au citoyen producteur. Moi, ce qui me frappe, Mensch, c'est vraiment brillant, il faut aller voir ce qu'il dit. Il dit plusieurs choses. Il dit oui, il y a des problèmes de fiscalité, etc., mais il y a surtout des problèmes de réglementation. Il n'y a pas de marché européen. Moi, quand j'ouvre, dit-il, une filiale dans un pays, il faut que j'ouvre un compte en banque, il faut que je crée une entreprise, je signe des centaines de
papiers. On vient de créer le 27e régime. Voilà. Bon, il arrive, 28e, pardon. Il arrive.
Exactement. Et moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement la différence entre le niveau, j'allais dire, de perception nationale et le niveau européen, c'est le niveau de perception tout court. Hein, on est en face d'un monde qui est en train de créer des oligarchies, voire des monopoles, d'un point de vue technologique et industriel, avec des gens. Et là, on n'est pas en train de parler que de l'extrême gauche, hein, on est en train de parler de mania de la finance et de l'entrepreneuriat, qui sont en train de parler de la fin du travail. C'est-à-dire que le jour où vous avez une intelligence artificielle et de la robotique suffisamment bien fait, qui vont prendre, et c'est Bill Gates qui le disait il y a un an, lui, il annonçait 90% de disparition de jobs. Donc, oui. Si jamais, alors moi j'en sais rien, hein, ça va tellement vite que j'ai du mal à me projeter.
Prophète de la job apocalypse.
Exactement. Mais si c'est ça, ça veut dire que la création, ce que dit Mensch aussi, la création de l'intelligence qui était avant biologique, maintenant on crée ça avec des électrons et de la technologie, les pourvoyeurs de cette intelligence vont avoir une capacité à influencer les populations qui va être majeure. Parce que les biais culturels, les biais éthiques, voire politiques, vous les mettez dans les modèles d'intelligence artificielle. Donc si nous, en Europe, on n'a pas cette capacité à créer des géants capables de faire ça, alors on sera réellement une colonie, c'est-à-dire que, on ne pourra pas dire ceci parce que l'intelligence artificielle des Américains ne le veulent pas, et on ne pourra pas respecter telle norme, par exemple, environnementale, parce que de toute façon, il faut acheter chinois, et que les Chinois, ils s'en fichent. Voilà. C'est ça, en fait, on est en train de jouer notre indépendance, et on voit bien que Mario Draghi, c'est Cassandre là-dessus. Il a fait une prévision et personne ne l'entend. C'est ça la réalité. Donc en fait, il est là comme ça et il dit voilà ce qu'il faudrait faire. Et en face, nous, on est en train de s'engueuler sur la taxe Zucman, sur s'il faut pas un congé paternité un peu plus long. Et puis à l'échelle européenne, c'est comment on accélère la décarbonation et tout. C'est très bien.
Oui, mais le décalage entre la grande marge du monde et nos débats nationaux sont parfois un peu forme de dissonance, effectivement. Allez, il est 10h19, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais qu'on parle aussi de la passation de pouvoir aujourd'hui à la Fed. C'est un jour important pour la politique monétaire. Jérôme Powell dit au revoir à la Fed après 8 années passées à la tête de la Banque Centrale Américaine. Il passe la main à Kevin Warsh. Quel bilan vous tirez, Olivier Redoulès, de ces 8 années de Jérôme Powell à la tête de la Fed? Il a plutôt bien bossé, non?
En termes de chômage et d'inflation, qui sont les deux principaux indicateurs, oui. On a un chômage qui est toujours relativement bas en comparaison européenne, mais qui augmente. Et on a aux États-Unis en fait une machine de création d'emplois, en fait des créations d'emplois qui ont fortement ralenti. En termes d'inflation, ça fait un bon moment qu'on a plus revu les 2%. Ça c'est les mauvais côtés des choses. Après, il y a un bon côté des choses, et d'ailleurs pour Mario Draghi le mentionner dans son discours, c'est le boom de la productivité américaine depuis quelques années. Donc en fait, c'est un petit peu comme si la Fed avait implicitement adapté son mandat en se disant on lâche le pied sur l'inflation, peut-être sur le chômage, on est un peu moins attentif. Et par contre, on laisse la productivité et le financement de l'économie se faire, quitte à ce que ça crée potentiellement des déséquilibres.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. En fait, si on se replace au début de son mandat, alors aux États-Unis, on n'y était pas exactement, mais en Europe, on avait la crainte de déflation. Aux États-Unis, on avait une inflation qui était encore modérée. Voilà. Et là, tout a un petit peu changé. On sortait, en fait.
Ah oui. Après, ensuite, ça a clairement changé. Je rappelle que l'inflation on a tutoyé les 10% à un moment, hein, en 2022-2023, avant que ça redescende à 3. C'était très spécifique.
Il y a eu des
quand même ramené à 3%. En début d'année.
Des chocs Mao sur le marché du travail.
Oui.
Voilà, il y avait le Covid, etc. Mais de fait, il y a eu une transformation assez majeure de l'économie américaine avec un déplacement des moteurs de croissance vers le numérique qui font l'essentiel de la croissance.
Et donc une Fed qui s'est adaptée, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Quoi, implicitement.
Donc, assez pragmatique,
mais voilà.
Comme le font souvent les Américains. Ingrid Barra, qu'est-ce que vous retirez de ces 8 ans de Jérôme Powell à la tête de
la Fed ? Alors, deux choses. Au plan économique, effectivement, plutôt une gestion assez bonne, hein, clairement. Alors à chaque fois, enfin forcément, personne, je crois, n'a jamais été capable de tenir 1,99% avec,
oui.
Voilà. Donc, mais au global, enfin voilà, pas de grand dérapage, plutôt une bonne tenue.
Il y a eu la faillite de SVB quand même. Il a reconnu lui-même un problème de supervision bancaire en 2023 au moment de la faillite de SVB.
C'est toujours perfectible. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est que il n'y ait pas de faillite systémique. Et le fait que, et donc ça, c'est plutôt l'aspect politique, le fait que Jean Boel ait été renouvelé et qu'il ait fait l'objet de critiques, c'est finalement c'est plutôt sain en fait.
Oui.
C'est-à-dire que on voit que le système américain a plutôt bien fonctionné. Avec voilà un certain équilibre, il a plutôt effectivement bien suivi son mandat, et un peu pesé les enjeux. Et je reviens effectivement sur cette histoire d'inflation, c'est vraiment toujours le même sujet en ce moment. C'est que si l'inflation américaine a piqué à un moment donné, c'est pas parce que, enfin c'est, il y a des facteurs intérieurs, mais c'est aussi effectivement particulier parce que en 2022, il y a eu une recomposition énergétique assez forte et donc un phénomène d'inflation très spécifique. Et ce phénomène-là, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment être lucide, et c'est ce point qui est assez important dans l'adaptation du mandat, sur le fait que c'est pas ça le ressort profond de la Fed.
C'est un choc des prix plus qu'une hausse de l'inflation.
Alors j'aimerais apporter une nuance. Alors peut-être pour aller d'abord dans le sens d'Ingrid, je pense là le meilleur. Comment dire, son meilleur satisfait, c'est que Trump lui est tapé sur la tête à un moment donné. Ça, ça montre qu'il a été critique,
oui,
qu'il a fait son travail.
Il a été indépendant.
Mais sur l'inflation, en fait, c'est ça où il y a eu une grande différence quand même entre l'Europe et les États-Unis en 2022, c'est que aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'argent budgétaire versé dans, oui, l'économie pour soutenir,
oui,
la reprise post-Covid. Et à un moment donné, en fait, on a vraiment eu une envolée de la demande interne, des salaires, etc. Même la hausse des prix pétroliers, ils en ont bénéficié parce qu'ils sont producteurs nets. Donc en fait, on a eu une sorte d'afflux de monnaie qui se retrouve en fait avec par un décalage de niveau de vie et qui s'est combiné par ailleurs à des gains de productivité importants. Et en fait, le mandat de Powell, c'est aussi le mandat du décrochage de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, mais où les États-Unis, pour le coup, ont dépassé l'Europe par
ils ont distancé, très largement. Ouais. Laurent Moisson.
Oui, moi je sais pas. Enfin, je suis toujours très mal à l'aise, moi, de juger comme ça. Enfin, c'est deux fois quatre ans, mais enfin, je suis assez inquiet par la taille des bulles qui ont été créées. L'inflation, effectivement, a été bien travaillée. Vous avez aujourd'hui des bulles qui sont considérables sur la tech,
oui,
sur l'IA. Alors, donc, quand vous parlez avec les gens d'IA, ils vous expliquent que non, pas du tout. Bon, on ne sait pas. De toute façon, une bulle, on sait qu'elle existe quand elle éclate. Hein,
ils monétisent. Disons qu'ils monétisent et qu'on voit les applications très concrètes dans les entreprises. Mais c'est vrai que
les dettes privées des entreprises, c'est pareil. Vous avez quand même un certain, ouais, nombre de... Bon, et après, ce n'est pas nécessairement la faute de la Fed. Vous avez, de toute façon, un déséquilibre qui est majeur depuis bien longtemps. Hein, et d'ailleurs, tout le modèle américain et le modèle mondial finalement est structuré autour de ça. C'est des États-Unis qui dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent, qui aspirent l'épargne et l'investissement mondial. Et pour ça, il faut créer les conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est une économie effectivement qui performe. C'est-à-dire, je vais placer mes capitaux là-bas, et ben ça me rapporte plus que si je les laisse en Europe.
Oui,
c'est le cas. C'est une économie qui consomme beaucoup, donc qui épargne peu, mais quelque part qui a des fonds de pension, donc ça fait quand même, hein, la dette américaine, elle est américaine, hein, c'est-à-dire que une large partie de la dette émise par la banque centrale est achetée par, alors c'est souvent des véhicules financiers, mais qui sont en grande majorité américains. Donc il y a Il y a des choses qui fonctionnent bien parce que le monde est organisé comme ça. Vous avez aujourd'hui des fonds d'investissement américains ou des grandes entreprises américaines qui sont capables de payer quasiment deux fois la valeur d'une entreprise que serait capable de mettre un fonds français ou anglais ou je ne sais quoi. Donc, voyez bien que vous avez une capacité comme ça d'aspiration des États-Unis qui fait que les déséquilibres qui sont créés par une gestion, franchement, qui serait en Europe, on serait bien content, comme ça on serait pas les derniers, mais ils sont vraiment nuls.
1000 milliards de déficit hein, cette année, les États-Unis, rappelle, donc, c'est absolument colossal.
C'est considérable. Donc, si vous voulez, vous avez ça, et le grand enjeu du prochain, ça va être quoi? Ça va être de s'arranger pour que ce modèle ne casse pas d'un coup. En faisant face à Trump qui, lui, renverse les choses. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où les États-Unis ont dit, en gros, on lâche l'industrie, ils ont désindustrialisé autant que nous, et on garde deux pieds de puissance très importants qui sont la finance mondiale, donc ça, succès, et la tech. Voilà. Et maintenant, ils veulent revenir à l'industrie parce que, comme ils le disent, maintenant, c'est plus Wall Street, c'est Main Street qui doit être là, et donc on doit réindustrialiser. Réindustrialiser, ça veut dire droit de douane, hein, ça veut dire une monnaie pas trop forte, et ça veut dire une compétitivité qui fonctionne, donc grâce à la tech notamment, mais pas que. Donc ça va tendre avec un nouveau président de la Fed qui va probablement se dire, il faut que je réduise un petit peu le bilan de la Fed, il faut peut-être que je fasse attention au taux d'intérêt. Donc, il va y avoir des noms d'oiseaux, à mon avis. Hein.
Bon, eh ben, on va suivre tout ça avec intérêt dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, bien sûr. Merci à tous les trois pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Merci Ingrid Barra, Laurent Moisson et Olivier Redoulès. Tout de suite, c'est BFM Entreprise, spéciale transmission animée par Sandra Gandouin. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Retenez bien le nouvel horaire, 9h30, 10h30, toujours en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.